BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour et bienvenue dans cette émission Tech & Co Business, une émission un peu particulière puisque nous l'enregistrons depuis le grand sommet IA de Lille. C'est l'acte 2. Vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait eu ce sommet de l'IA à Paris en février 2025. Et bien voilà, rebelote, acte 2 ici à Lille avec cette première journée dédiée. Alors, il y a les politiques, il y a les entreprises, des grands chefs d'entreprise qui sont là et quelques startups. Et nous allons recevoir plusieurs ici même sur ce plateau. Dans un instant, je recevrai Éric Marquiol, le patron du Metaverse Industrie chez Renault. C'est lui qui est en train d'installer les robots Vandercraft chez Renault. Et bien, on parlera de tout ça avec lui. On enchaînera pour parler data center avec Olivier Micheli, qui est le président et CEO de Datafor. Évidemment, quand on parle de Sommeia, on ne peut pas passer à côté de cette personnalité, Anne Bouvreau, qui est la coprésidente du Conseil national de l'IA. On reviendra ensuite pour parler des startups et notamment de cette fantastique aventure d'Alan avec Charles Gorintin, cofondateur et CTO d'Alan, qui a aussi quelques mots à dire sur Mistral. On parlera souveraineté avec Gauthier Croix, CEO de H Company, autre start-up en vue dans le monde de l'IA. Et puis on terminera, l'IA et le travail, c'est important, avec Constance Névoré, qui est la CEO du groupe Ventoo et qui est déléguée du Women's Forum du G7 d'Evian. Voilà, beaucoup de sujets. On est ensemble pendant une heure ici à Lille. Allez, tout de suite, on démarre.
Tech & Co Business sur BFM Business.
Allez, notre premier invité, Éric Marquiol. Bonjour Éric.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes vice-président Metaverse Industrie du groupe Renault. On va parler avec vous notamment de ce partenariat que vous avez signé avec un autre Français, Wondercraft, avec des robots que vous allez introduire dans les ateliers, les usines Renault, les centres de production. Nous sommes ici, alors je le rappelle, on est à Lille, c'est le grand sommet de l'IA et justement on parle de l'IA, la transformation de l'IA alors dans notre monde au quotidien, mais aussi cette transformation de l'IA dans le monde de la révolution. D'ailleurs Éric, vous participez à une table ronde l'IA révolution industrielle. Éric, quelques mots juste pour définir vice-président Metaverse Industrie du groupe Renault, ça signifie quoi? Vous travaillez sur quel sujet?
Alors, donc c'est tout ce qui est sur le périmètre de l'ensemble de nos usines, nos 19 sites sur toute la planète, toute la partie supply chain, le process engineering et j'ai aussi les activités qualité, la transformation digitale dans l'ensemble de ces fonctions. Donc on va retrouver tout ce qui est utilisation de la donnée dans nos usines pour la maintenance prédictive, pour l'optimisation de la qualité, pour les consommations d'énergie et également tout ce qui est robotique avec depuis 2 ans vraiment un changement radical avec l'arrivée de l'IA physique.
Voilà, c'est vraiment l'effet de cette arrivée d'IA qui a accéléré cette robotique parce que c'est vrai. Alors, ce qu'on voit souvent évidemment c'est la robotique humanoïde, c'est celle qui nous impressionne le plus. Alors voilà, télécommandée, enfin il y a pas mal de choses, ces vidéos qui circulent. Là on est vraiment dans la production pure et dure, on est dans du début de passage à l'échelle dans des usines. Et pour vous c'est ce qui change, c'est cette physical AI, c'est vraiment ça qui a donné le coup de pouce pour
cette capacité pour finalement de mettre dans des robots une intelligence qui va être capable de s'adapter et de réagir et d'accomplir des missions qui ont été attribuées avec une capacité de programmation, une capacité de réaction complètement différente. Et se rajoute à ça une capacité aussi d'équilibre, d'où le avec des mouvements type de jambes qui était complètement impossible par le passé.
Oui, parce que ça c'est des choses que nous on fait tout à fait naturellement, de se tenir sur nos jambes, mais pour un robot c'est des calculs derrière, même quand il est immobile. Alors racontez-nous, comment est né ce partenariat avec Wondercraft et aujourd'hui voilà comment vous allez peu à peu l'intégrer dans vos chaînes de production?
Alors,
chez Renault,
en fait on cherchait, parce qu'on a 11 000 robots industriels chez Renault, oui. des AGV, enfin les Automated Guided Vehicles sur l'ensemble de nos chaînes, on a quasiment le même nombre, donc c'est vraiment un axe très important pour nous de garder cette compétitivité opérationnelle. Donc on cherchait à trouver un partenaire de bon niveau en Europe. Et donc il y a eu cette rencontre avec les équipes de Wondercraft qui étaient dans un domaine apparemment très éloigné de nous.
Juste la santé.
Exactement, la santé des équipes.
Oui, parce que l'idée de Jean-Louis Constanza au début, il avait une aventure personnelle qui a fait qu'il s'est penché beaucoup plus sur ce sujet-là dès le départ.
C'est ça, et en fait la technologie, les moteurs, la mécatronique, les algorithmes utilisés pour faire des exosquelettes, pour faire marcher des personnes paraplégiques, c'est exactement la même de celle nécessaire pour faire les robots de nouvelle génération. On préfère dire robots de nouvelle génération que le robot humanoïde.
Au début, vous avez imaginé d'abord des exosquelettes ou vous êtes tout de suite dit non, il faut qu'on déporte ça
vers le robot. On était vraiment directement dans le sujet avec Jean-Louis et ses deux cofondateurs en disant il faut vraiment qu'on aille dans ce domaine-là. La rupture, elle est dans ce domaine-là.
On va reparler technologie dans un instant. Comment il y a quand même un côté acceptation sociale, parce que là, j'imagine qu'au début, dire voilà, c'est des robots qui vont faire des tâches que des humains faisaient auparavant. Il faut le faire accepter, même si c'est des tâches dures, difficiles, rébarbatives. Enfin voilà, expliquez-nous voilà cette première étape.
La première étape, c'est vraiment la mise en place dans nos usines. Donc là, depuis le mois de février, on est en test à l'usine de Douai opérationnelle. Donc pour faire la manutention de pneus, donc c'est des pièces qui posent 12 à 15 kilos. Hein, donc toutes les 60 secondes, toutes les 2 minutes en équipe de nuit, et vraiment être capable pour la robotique de traiter ce problème-là qu'on n'avait pas réussi à régler en robotique traditionnelle, c'est un vrai plus aussi, parce que c'est un poste très pénible. Donc l'acceptation sociale sur des postes de ce type-là, il y a vraiment un très bon accueil à Douai.
Oui.
Après, on continue à travailler, nous, sur quelle interaction avec les équipes de World of Warcraft, comment finalement, grâce à cette programmation facile des robots, comment les opérateurs autour, les conducteurs d'installation vont pouvoir interagir et eux-mêmes reprogrammer et utiliser ces robots de manière beaucoup plus facile que la robotique.
Oui, parce que c'est vrai que quand on est humain, on fait attention aux gens qui sont à côté de nous, on sait s'interrompre, là il faut que le robot apprenne tout ça. Comment on l'entraîne, ce robot? Est-ce qu'il a suivi les gestes d'un humain? Est-ce qu'il a été programmé dans des univers virtuels? Comment ça s'est passé?
Alors, il y a deux niveaux de programmation, les équipes de World of Warcraft vous l'expliqueraient mieux que moi, mais il y a deux niveaux de programmation. Il y a le cervelet, c'est ce qui permet finalement de maintenir et de gérer comme nous un peu les mouvements de marche, de préhension de manière naturelle. Et ensuite, vous avez le cerveau qui va réagir et faire des tâches et être conscient de son environnement. C'est vraiment ça qu'on appelle les world models, où il y a, etc.
D'accord.
Et donc, pour cette dernière partie, on a utilisé des vidéos, des simulations complètes de l'environnement. On a des capteurs et des caméras et on a appris au robot à reconnaître un pneu, à reconnaître un convoyeur, etc. Et il est capable, avec cet apprentissage-là, ensuite de réaliser des tâches.
Et alors, expliquez-nous, Eric Markel, pourquoi ces 350 robots qui vont être introduits dans une première phase, j'imagine que ça grossira encore, mais de ne pas rester juste à la jolie vidéo sur YouTube et de vraiment vous êtes dit, non, là il y a un vrai enjeu de compétitivité industrielle.
Le gros intérêt pour nous de travailler avec Wondercraft, c'était leur expérience côté médical. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes capable de porter des patients handicapés, vous avez une exigence de robustesse et de fiabilité, vous ne pouvez pas vous permettre de les faire tomber. Et contrairement à tous les acteurs chinois ou américains, etc., qui ont beaucoup d'essais erreurs, il y a régulièrement des accidents avec ce type de robot, c'est pas du tout le cas et c'est pas dans les gènes des équipes de Wondercraft. Donc cette notion de résilience dont on a besoin nous dans l'industrie, on la trouve chez Wondercraft. Et c'est ce qui nous permet d'envisager un passage à l'échelle en démarrant par des activités très simples de manutention, de port de charge, etc. Et ces 350 robots, on a une dizaine de familles de cas d'usage pour les déployer dans les ateliers.
Parce que justement, ce qui va faire votre richesse aussi pour l'intégration de ces robots, c'est les data. Parce que vous avez, on imagine chez Renault, le nombre de données industrielles que vous avez. Et ça, c'est crucial pour entraîner ces robots, puis ensuite, pour leur faire effectuer ces tâches.
C'est clair qu'effectivement, récupérer, faire les vidéos et scanner finalement les opérations, c'est un patrimoine que une entreprise de tech a du mal à obtenir naturellement. Et donc avoir ce partenariat et cette prise de participation qu'on a fait dans Warcraft, je pense, va nous permettre d'aller très très vite et on espère de construire un champion européen.
Voilà, et vous réfléchissez déjà donc à d'autres tâches avec ce type de robot?
Exactement, le port de caisse, des manipulations ou des chargements de postes de tôlerie, de pièces coupantes et lourdes, etc.
Vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de verrou pour que ces robots humanoïdes soient présents dans ces centres de production?
Alors, sur des tâches relativement simples, non. Je pense que d'ici un an et en 2027, d'où notre objectif des 350. Après, il y a tout un tas de tâches où aujourd'hui, on n'a pas du tout de visibilité sur la capacité de ces robots à faire ça. Mm-hmm. Les manipulations avec énormément de dextérité, les câblages, toutes les pièces molles, etc. Là, on a quand même vraiment besoin de nos équipes opérationnelles.
Et toute dernière question, Eric Markel, un enjeu de souveraineté aussi? Oui. Un constructeur alors français, mais qui rayonne au niveau mondial, mais avec un acteur français.
Exactement. Et donc, on veut finalement, quelque part, industrialiser l'avenir et utiliser, que Wondercraft puisse utiliser Renault pour produire à l'échelle pour qu'on puisse faire profiter finalement tout le tissu industriel de cet outil de compétitivité.
Éric Marquion, merci infiniment d'être passé par ce plateau. Voilà, Sommelier, on va recevoir beaucoup d'invités. On parlera de data center dans un instant. Merci d'être venu nous parler de ce beau projet avec Wondercraft. On va suivre évidemment avec beaucoup d'attention l'évolution de ce projet. Allez, on se retrouve tout de suite sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.
Allez, on poursuit après avoir parlé de robots. On va parler data center avec notre invité suivant, Olivier Micheli. Bonjour.
Bonjour.
Olivier, merci d'être avec nous. Vous êtes président et CEO de Datafor. Alors, Datafor, on sent data dans le nom et derrière Fort Data Center. Oui, on est dans cet univers. Vous intervenez d'ailleurs sur ce sommet de Lille sur un panel data center, énergie, emploi, comment sceller le nouveau pacte territorial de l'IA. Et ça tombe bien parce que votre actualité, c'est que vous venez de signer. Alors, vous êtes présent partout en Europe. Vous avez une vingtaine de data centers aussi en France. Mais là, vous venez particulièrement de signer ce contrat à Ecodyn. Il y a pas mal d'investissements. Hein, donc, vous prévoyez d'injecter 20 milliards d'euros d'ici à 2030 pour développer vos campus en Europe, dont 5 milliards sur le site d'Ecodyn avec un objectif de créer, alors il y a 2400, 2500 emplois. Racontez-nous un peu ce projet.
Alors, vous avez raison de rappeler, c'est un moment important pour nous puisqu'on vient de signer ce protocole d'accord pour développer ce projet à Ecodyn, 700 mégawatts, 5 milliards d'investissements. Un processus qui a duré un an. Et en fait, cette idée nous est venue il y a 2 ans. Avec le développement de l'IA, on s'est dit les campus qui vont gérer l'IA sont des campus beaucoup plus importants que ceux qu'on a développés jusqu'à présent pour le cloud computing.
D'accord.
Et en fait,
qui sont l'essentiel de votre activité aujourd'hui. On est plus dans ton data center, bon, même s'il y a beaucoup de technologies intérieures, mais plus traditionnelles, on va dire.
Vous avez complètement raison. Pendant 20 ans, on a développé des data centers pour héberger le cloud privé, le cloud public, le cloud souverain. Les data centers d'aujourd'hui et de demain et d'après-demain seront des data centers qui seront plutôt dédiés à l'IA. Et donc, on s'est dit, trouvons un site suffisamment important pour justement héberger ces capacités de calcul liées à l'IA. Mm-hmm. Et le faire en Ile-de-France, c'est très compliqué. Il y a peu de foncier, il n'y a pas d'électricité.
Il y a des routes dans tous les sens.
Exactement.
Il y a des villes, des villages, des agglomérations partout.
Exactement. L'acceptabilité est peut-être moins importante que dans une région industrielle comme les Hauts-de-France. Et assez rapidement, on s'est dit que les Hauts-de-France étaient la bonne région. Pourquoi ? Parce que c'est une région industrielle, il y a des friches industrielles et c'est au carrefour de l'Europe. Puisque si vous mettez vos data centers ici dans les Hauts-de-France, eh bien vous êtes à équidistance des principales places européennes, que ce soit Paris, Londres, Francfort ou
Et donc ça veut dire sur les chemins des fibres aussi.
Exactement, vous avez tout compris.
Aujourd'hui, là je vous entends parler de... C'est un projet qui a été réfléchi il y a 2 ans, qui s'est accéléré il y a 1 an, on signe aujourd'hui. Quand on parle de... c'est un site, c'est une friche industrielle aujourd'hui où vous avez déjà un campus et vous allez le gonfler, le renforcer?
Non, c'est une friche industrielle, c'est l'ancienne friche industrielle d'Usine Orme qui s'est arrêtée à la fin des années 70, début des années 80. Et qui en fait était abandonné. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redynamiser, redévelopper, la dépolluer déjà. Il ne faut pas oublier que c'est très important, parce que c'est un site qui est pollué, un ancien site industriel qu'on va dépolluer, aménager, et on va construire un campus de data center dédié à l'IA.
D'accord. Ça veut dire que, parce qu'on sait que souvent, j'en parlais l'autre jour avec un des patrons d'Iliad qui me disait qu'il voulait développer un data center dans l'est de la France, mais c'était compliqué avec toutes les normes environnementales. Enfin, il y a plein de choses à respecter, alors que vous respectez forcément. Mais le fait que ce soit déjà sur une friche industrielle, ça permet d'accélérer certains aspects du projet.
Alors, oui. Et déjà, si vous utilisez une friche industrielle, en fait, vous artificialisez pas les sols, en fait. Oui. Parce que c'est déjà artificialisé, donc c'est déjà plutôt, vis-à-vis de l'environnement, c'est plutôt quelque chose de très positif. Ensuite, les élus, les collectivités veulent redynamiser ces sites. C'est ce qu'on a fait dans l'Essonne où on est présent. On a redéveloppé 2 friches industrielles, celle d'Alcatel, aussi, et à Nozay, le site de Nokia. Donc on a cette habitude, si vous voulez, on a ce savoir-faire de redévelopper des anciennes friches industrielles pour les développer en campus numérique. Donc il y a plus d'acceptabilité, vous avez complètement raison. Après, comme pour n'importe quel acteur, on est obligé d'obtenir les autorisations environnementales, les permis de construire, etc. Donc ça,
On parlait tout à l'heure d'énergie, ça veut dire qu'il faut une forte... Quand on gonfle, ben quand on passe d'un data center plus traditionnel à un data center AI Factory, enfin ou AI Giga Factory, si c'est, ils sont davantage beaucoup plus puissants, on a besoin de beaucoup d'énergie parce que les serveurs, les GPU consomment beaucoup, c'est une densité importante de calcul, donc du coup ça demande beaucoup d'énergie. Ça veut dire qu'il faut retravailler aussi l'organisation des réseaux d'énergie aujourd'hui, ou est-ce qu'avec EDF, notamment, qui est l'un de nos principaux pourvoyeurs dans le domaine, ils ont déjà les réseaux qui sont prêts?
Alors, en fait, en France, on a beaucoup de capacités électriques. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup d'énergie. La preuve, c'est qu'on exporte à peu près 90 TWh de puissance électrique vers nos voisins européens chaque année. Donc, on a de la puissance électrique et c'est pour ça que EDF veut des consommateurs comme, par exemple, Data4 qui construit des data centers pour consommer. Le sujet, c'est surtout lié à l'acheminement de l'électricité, la distribution de l'électricité, notamment en haute tension avec RTE. Donc, il est, un, plus logique d'aller dans une région où quand même on produit de l'énergie, comme par exemple les Hauts-de-France, et deux, de se mettre à côté des postes sources pour en fait avoir le minimum de distance avec le poste source qui va vous livrer la capacité électrique. Et Ecodin, par exemple, est à 10 km du poste source.
D'accord.
Donc une distance raisonnable dans une région qui produit beaucoup d'énergie.
Et derrière, est-ce que vous avez... Alors vous dites plutôt Data 4, le prononcer
oui,
en français.
Oui, alors vous savez, on a un acteur à la fois. On a un acteur franco-européen. Donc moi, je prononce en fait Data 4, en fait, avec le... puisqu'on est très local, on dit Data Quattro, Data 4, Data Sphere.
D'accord, donc quand on est en France, on dit Data 4.
Vous pouvez dire Data 4, mais ça ne me dérange pas que ce soit Data 4. Hein.
Très bien. Olivier Micheli, ça veut dire que lorsque vous lancez un site comme Ecodin, vous avez déjà derrière des clients potentiels qui se sont déjà déclarés en disant, voilà, moi... parce que là, on est quand l'ouverture, ce serait quand de ce site, si tout se passe bien avec les autorisations, la dépollution, etc.
Alors, oui, on a des marques d'intérêt très fortes, vous avez raison de le rappeler. Une ouverture en 2029. En fait, sur le deuxième semestre 2029, on veut que le premier data center dédié à l'IA à Ecodin sorte de terre et soit opérationnel. Et bien sûr, on a beaucoup d'acteurs spécialisés dans l'IA, que ce soit des acteurs européens ou non européens, qui sont bien sûr très intéressés. Pourquoi ? Parce que c'est un site qui est bien sûr très important, qui est livré dans 3 ans, avec bien sûr une conception qui va être faite pour justement, ce que vous disiez tout à l'heure, pour absorber, pour héberger des grandes densités de puissance de calcul.
Oui, parce que c'est ça la difficulté aussi. Quand on voit la vitesse à laquelle vont les développements dans l'IA, dans la partie logicielle, mais même dans les composants, il faut se projeter à 3 ans. J'imagine que c'est l'une de vos difficultés aussi, d'anticiper un peu cette innovation galopante.
Alors, oui... vous avez raison, on doit tout le temps anticiper l'innovation pour savoir un peu à quoi va ressembler l'informatique de demain et d'après-demain, parce que nous, on a un récipient de nos usages digitaux. Donc en fait, il faut qu'on construise des data centers qui répondent aux usages d'aujourd'hui et puis bien sûr de demain. Cela étant dit, on a les data centers qui sont justement dédiés à l'IA ont pas mal évolué pour justement absorber ces densités de puissance qui sont très importantes. Maintenant, en fait, on utilise du refroidissement non pas à air, mais du refroidissement à eau qui est plus dense. Où on amène, et c'est quelque chose d'assez innovant, c'est qu'on ramène de l'eau dans les salles informatiques. En général, on n'aime pas trop l'eau dans les salles informatiques, vous le savez, jusqu'au B informatique et jusqu'au processeur, pour en fait être le plus proche de la source de chaleur et refroidir cette source de chaleur, les GPU, qui sont bien sûr qui émettent énormément de chaleur. Donc les data centers qu'on construit aujourd'hui pour l'IA, ils sont valables pour les 10-20 prochaines années. Et de toute façon, c'est des objets que vous pouvez adapter. Même les data centers qui sont liés au cloud, on sait les adapter, on sait les transformer pour faire ce refroidissement à eau et héberger si besoin de l'intelligence artificielle.
Bien, merci Olivier Micheli d'être venu nous parler de tout ça. On va suivre évidemment la progression alors à la fois de vos data centers traditionnels, mais aussi de celui d'Ecodin. Donc plus de 5 milliards
d'investissements.
Voilà. Là, enfin, nous rentrons aussi dans ces chiffres-là, parce qu'on a trop longtemps entendu les
réel,
Américains.
Hein. Et c'est réel, c'est concret, c'est vrai, quoi.
Oui, puisque vous venez de signer tout cela ce matin ici à Lille. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve avec Anne Bouvreau qui est aussi un peu à l'origine de ce rendez-vous ici à Lille. C'est tout de suite sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.
Allez, notre invitée suivante, Anne Bouvreau. Bonjour Anne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes coprésidente du Conseil national de l'IA. On a vu apparaître Philippe Aguillon tout à l'heure qui
Absolument.
Était ici sur la scène à Lille. Alors là, autant février 2025, vous étiez au cœur de l'organisation. Là, vous êtes invité.
Oui.
Mais on peut quand même dire que c'est l'acte 2 hein, de ce sommet de l'IA.
Absolument. On est 18 mois après et vraiment l'importance de continuer à avoir des lieux où on parle de l'IA qui continue à se développer de manière incroyable. Et en particulier dans cette région Hauts-de-France, à Lille, où il y a un certain nombre d'annonces, de très grosses annonces, de centres de données, d'usines qui ont été faites. C'est très important de parler d'IA.
Oui, qui est un barycentre. Alors, géographique, ouais. quelque part, et puis un barycentre ouais. aussi, aujourd'hui, avec cette infrastructure. Qu'est-ce qui a changé, là, en 18 mois? On sent qu'on parlait beaucoup de souveraineté, alors on était plutôt fixé sur Mistral, qui continue sur sa route, sur d'autres boîtes du logiciel, puis on se rend compte que, peu à peu, cette migration et notre force, en France, en Europe, elle migre peu à peu vers les infrastructures. Hein. C'est réel, ça.
Oui, mais en fait, c'est vraiment toute la chaîne de valeur, donc c'est important d'être présent à tous les niveaux de la chaîne de valeur, et bien sûr, les centres de données, la puissance de calcul, c'est extrêmement important. On est très attractif en France pour tout un tas de raisons, de foncier, d'électricité décarbonée, de zones où on a industrialisé depuis longtemps, où on peut accueillir des projets comme ça. Mais il faut aussi continuer dans le domaine des modèles et dans le domaine du cloud. On a vu Octave Clava ce matin d'OVH. Et ce qui s'est passé en 18 mois, c'est aussi beaucoup une accélération
oui.
des capacités de l'intelligence artificielle. Avec les agents IA, avec le développement informatique, avec la cybersécurité, avec tout un... Donc ça continue, on n'est pas sur un plateau, on est vraiment sur...
Et on sent qu'on est dans ce mouvement. On rappelle, vous avez sorti, je citais Philippe Aguillon parce que vous avez oui. sorti ce rapport avec lui. Et je pense que pour vous, il y a une certaine satisfaction de voir certains éléments du rapport qui sont en train de, peu à peu, certains plus vite que d'autres un peu plus lentement, mais qui sont en train de se mettre en place. Hein.
Ah mais absolument. C'est toujours satisfaisant quand on regarde, c'était mars 2024,
oui.
c'était il y a un peu plus de 2 ans, et à l'époque de l'IA, 2 ans, c'est une très très grande période. Donc, se rendre compte qu'on avait quand même pointé dans un certain nombre de directions qui sont toujours valides, et qu'on voit les choses se mettre en œuvre, pas encore tout, pas aussi vite que ce qu'on aurait voulu, mais c'est vrai que c'est très satisfaisant.
En plus, je trouve qu'en investissement, quand on entend les Américains, bon, qui sont dans des... En plus, on vit une journée particulière avec cette entrée en bourse ouais. de SpaceX, où là, les milliards voilà, tombent de je ne sais où, mais en tout cas ils sont bien là. On voit cet investissement annoncé à Choose France, d'ailleurs
oui.
dont la région de France va bénéficier pour 40-44 milliards.
Oui.
On parle en milliards aujourd'hui, ça c'est important.
Oui. Ça c'est important. Quand on a sorti le rapport de la commission IA, une recommandation c'était un fonds à 10 milliards pour l'IA, et tout le monde nous disait mais 10 milliards, mais vous même pas en rêve.
Oui.
Et là on voit qu'on est, alors c'est un peu inquiétant aussi, mais on voit qu'on est sur des dizaines de milliards, des centaines de milliards, c'est presque surprenant.
Vous arrivez à faire rayonner justement vos grandes idées du rapport à un niveau européen, parce que ça aussi c'est
oui.
important, c'est bien ce qu'on fait en France, mais on sait bien qu'on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas au moins cette alliance avec nos cofrontaliers.
Oui, et c'est vrai, c'est super pour la France, mais on est trop petit à l'échelle de la France, même avec ces annonces de Choose France, même avec les grandes entreprises qu'on a, ou les plus petites qui sont très actives. Et donc oui, c'était une des ambitions du sommet IA, et on a vraiment, en février 2025, eu un discours d'Ursula von der Leyen avec des annonces d'investissement dans la puissance de calcul, dans le financement de la recherche à l'échelon européen. Et ça continue, là, on a entendu la vice-présidente Enna Virkkunen
oui,
ce matin,
qui
expliquait que donc maintenant il y a une stratégie européenne du numérique, une stratégie de souveraineté numérique. On n'avait pas ça il y a 2 ans, on n'avait même pas ça il y a 1 an, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est pas uniquement maintenant l'approche régulation, c'est il faut marcher sur 2 jambes, il faut développer, produire, avoir des acteurs qui innovent, et en même temps bien sûr il faut protéger les citoyens et nos modes de vie. Mais donc on continue à avoir des annonces d'investissement, de simplification, pour aider à développer l'écosystème au niveau européen, et on travaille beaucoup par exemple avec les Allemands qui vont être présents à Choose France, avec les Canadiens qui vont aussi être présents à Choose France. Donc c'est important de travailler avec d'autres pays, les économies de taille moyenne, l'Europe, pour être plus fort.
Et d'ailleurs, je rappelle, il y a eu une allocation du président Emmanuel Macron avec le Premier ministre canadien. Exactement. Marc Carné, ici à Lille. On parle de cette accélération, il faut embarquer tout le monde. On va parler du grand public dans un instant, mais déjà je descends un peu d'un cran, les PME, les TPE. Est-ce que là aussi vous sentez que ça frétille? Peut-être pas suffisamment vite, mais là, parce que c'est notre tissu économique, il est beaucoup de petites entreprises. Là, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles accélèrent davantage?
Alors c'est forcément plus compliqué pour une petite entreprise. Une grande entreprise peut se dire je prends le temps, j'ai différentes fonctions. Pour les plus petites, c'est comment prioriser, parce qu'on ne peut pas vouloir mettre de l'IA dans toutes les fonctions quand on est vraiment focalisé sur des tailles d'effectifs plus petits et plus de clients, et moins de clients, mais on commence à voir des solutions plus spécifiques, plus packagées, qui commencent à marcher. On commence à voir les domaines dans lesquels ça marche bien. Le développement informatique, c'est un domaine où ça peut aider les petites entreprises comme les grandes. Et donc, je vois les choses avancer, mais il y a un énorme besoin de formation et de compréhension également de combien ça coûte. Parce que tout ça est bien joli, mais ça coûte de s'abonner à ces différents modèles d'IA. Et avec les introductions en bourse de SpaceX et puis demain d'Anthropic et d'OpenAI, il risque d'y avoir un focus plus important sur leur profitabilité.
Oui.
Et aujourd'hui, ce que ça coûte de s'abonner sur les versions pro de ces modèles, en fait, ça ne correspond pas au coût. Donc ça fait partie des éléments importants.
Même si on le voit qu'ils essaient, on a vu OpenAI qui a baissé ses tarifs, pour essayer d'attirer davantage, parce que il faut trouver. Mais on se dit, je crois que c'est Robin Rivaton qui était sur scène là aujourd'hui, qui disait on va peut-être arriver sur le modèle des compagnies aériennes. On en a besoin, mais elles ont des marges, elles investissent beaucoup, mais elles ont des marges très 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 faibles. Là, c'est le risque, parce que ça va nous retomber dessus quelque part, parce qu'il va bien falloir qu'à un moment ils retrouvent, parce que les investissements sont colossaux. Comment justement vous percevez ce modèle bulle, on parle d'une bulle, mais vous, avec votre regard, vous êtes chercheur, vous connaissez parfaitement ce
pas chercheuse, je ne suis pas chercheuse, mais je travaille sur le domaine.
Donc, comment vous vous voyez un peu justement bulle ou pas bulle, quoi, tout simplement?
Je pense qu'il y a clairement une bulle, mais après c'est une anticipation des besoins que beaucoup de gens pensent qu'on aura. Il va y avoir des limites en termes de la quantité d'énergie qui est disponible, et puis des limites en termes de ce que les gens sont prêts à payer. Dans le domaine des télécommunications, moi j'ai longtemps travaillé chez Orange et puis à l'Association mondiale des opérateurs mobiles. Il y a un moment où on est passé, vous voyez, sur le pricing des tokens, on est passé à il faut mettre des forfaits avec des volumes donnés. Ça, c'est une des pistes en termes de ce qu'on fera payer ou non pour l'IA. Mais ça nous ramène aussi au sujet de souveraineté. Si en Europe, on n'a pas la capacité de développer nos propres acteurs, on payera ce que les Américains voudront nous faire payer. Et ça, c'est un risque énorme.
Et là, très, très franchement, est-ce que vous sentez en souveraineté, on sent que ça y est, il y a une vraie, un vrai élan de souveraineté aujourd'hui. Et quelque part, merci les États-Unis. Alors, c'est Donald Trump de façon très visible, mais les autres avaient déjà quand même posé les rails de tout cela. Mais vous sentez qu'on va pouvoir y arriver aussi dans ce domaine-là? Alors là, on va voir les infrastructures, mais on aimerait descendre un peu dans la chaîne de valeur, vers les composants et tout ça. Vous pensez qu'il y aura un déclic aussi
Je pense qu'on peut y arriver. Si on va y arriver, on va voir. Mais il y a une vraie prise de conscience citoyenne. On l'a vu avec le sondage qui a été présenté ce matin. Souveraineté, tout le monde... et c'est pas vrai qu'en France, c'est vrai aussi en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Les citoyens vraiment comprennent, parce que effectivement, la géopolitique montre que nos alliés d'hier sont moins nos alliés. Donc il y a cette prise de conscience, il y a de l'argent qui est mis au niveau des pays et de la Commission européenne. On a la chance d'avoir des chercheurs et des start-up excellents. Dans le domaine des semi-conducteurs, on a ce lab qui s'appelle IMEC, qui fait de la recherche dans les futurs semi-conducteurs. C'est clé qu'on ait ça. On a ASML pour la fabrication pour les machines qui permettent de fabriquer les semi-conducteurs. Dans le domaine du cloud, on a quelques acteurs, mais il faudrait vraiment qu'ils grandissent. Donc on a toute une politique industrielle à mettre en œuvre au niveau européen. C'est possible d'y arriver. Les citoyens veulent le faire et on a les talents, mais encore faut-il le faire.
Oui. Eh bien, merci Anne Beauvreau d'être venue parler de tout ça. Voilà, d'avoir pris quelques minutes. Voilà, on essaie de recevoir beaucoup d'invités. On profite de ce grand sommet de l'IA ici à Lille. Donc Anne Beauvreau, coprésidente du Conseil national de l'IA, et on va continuer à suivre évidemment tous les rapports, les lignes de votre rapport qui sont en train de s'inscrire devant nous au jour le jour. Allez, tout de suite notre prochain invité. On part avec Charles Corentin.
Tech & Co Business sur BFM Business.
Allez, on poursuit depuis le grand sommet de Lille avec ce grand rendez-vous sur l'IA, alors qu'il n'est que la première journée, alors avec des chefs d'entreprise, des grands patrons, des patrons de start-up. Alors je sais pas si on va revenir sur ce thème start-up avec d'autres invités dans un instant, et puis des politiques, et puis là toute la semaine ça va continuer dans les Hauts-de-France, il y a plein d'événements un peu partout. En tout cas, nous sommes avec Charles Corentin. Bonjour Charles.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, donc cofondateur et CTO d'Alan. Alan, justement, on le disait juste avant hors micro, 10 ans déjà que l'entreprise a été lancée. J'ai dit start-up, mais je ne sais plus parler de start-up parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, c'est 1 million de membres. C'est combien d'employés aujourd'hui chez
Donc,
Alan?
800 employés, un peu plus de 1 100 000 membres. Et on fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel récurrent.
Voilà, avec là en plus des grands contrats avec des grandes entreprises et surtout des grandes administrations. Là, on sent qu'il y a vraiment un élan qui est donné. Mais justement, Alan, aujourd'hui, alors beaucoup disent c'est la santé 2.0, voilà, si je résume, mais ça va beaucoup plus loin aujourd'hui, hein, puisqu'il y a toute la partie prévoyance, hein, qui est en train de se monter. Et tout ça, on est au sommet de l'IA. L'IA permet d'accélérer.
Exactement. Alors l'IA nous permet d'accélérer à la fois sur la productivité des équipes. Ça, c'est assez impressionnant en fait. On voit déjà que en termes de revenus par personne, c'est exponentiel depuis qu'on a fait notre transformation IA. Oui. Donc on entend beaucoup des gens qui disent ah, l'IA ça marche pas. Nous, on voit vraiment dans nos chiffres que depuis qu'on a fait la transformation, exponentiel. Donc sur la productivité, déjà ça marche énormément. Sur tout ce qui est simplification des processus métiers, maintenant on peut rembourser plus de 70% des factures en moins de 5 minutes.
Ah oui.
Et donc ça change un petit peu des mutuelles et des assurances santé un peu à l'ancienne qui pouvaient prendre plusieurs semaines. Maintenant c'est 5 minutes. Et enfin, on peut créer des nouveaux produits qui n'auraient jamais pu exister avant l'IA. Donc, notamment notre agent médical IA qu'on a appelé Mo, qui vous permet en fait juste d'échanger sur tous vos problèmes de santé, d'avoir des réponses et ensuite d'être orienté directement dans le système de santé avec des recommandations sur qu'est-ce qu'il faut faire, des programmes de santé. Par exemple, moi j'ai mal au dos, j'ai mon programme de santé pour pouvoir soigner mon mal de dos qui m'a été préparé directement par
de prévention par et tout ce qui suit. Aujourd'hui, quels sont les métiers au sein d'Alan qui se sont le plus transformés avec l'IA? Donc on dit les développeurs sans doute, on sait que j'entendais Arthur Mensch qui disait l'autre jour, chez nous plus personne ne pond des lignes de code mais devient des développeurs, des orchestrateurs d'agents.
Alors c'est sûr, et à peu près tous les métiers sont dans cette situation-là.
Oui.
C'est qu'on va avoir plutôt des gens qui vont orchestrer et gérer des agents plutôt que faire à la main. En fait, on est passé de l'artisanat à l'industrialisation. C'est que chacun est devenu manager d'agents. Et ça, c'est assez subtil. Et ce n'était pas du tout le cas il y a 2 ans. Ça a vraiment changé mi-2025.
D'accord.
Et là, on vit la nouvelle révolution de l'IA qui est la révolution des agents IA.
Et comment on réussit justement à accompagner cette accélération? Parce que je ne dis pas que du jour au lendemain, pour un développeur, son métier se transforme, mais quand même. Et puis il y a des chefs de projet, enfin il y a une hiérarchie quand même dans ces équipes de développement. Et tout d'un coup, tout ça est bousculé. Et surtout, ça se fait rapidement. Ça se fera en 4-5 ans. On dirait, bon voilà, on a le temps de voir arriver à la chose. Mais là, voilà, mi-2025, en 6 mois, ça a bousculé. Comment on fait là, quand on est CTO justement d'Alan, pour gérer tout ça?
C'est extrêmement complexe parce que autant la machine c'est facile, oui. L'humain c'est compliqué. Mais en fait, une fois qu'on a réussi à donner les outils qu'il fallait aux gens, c'est à peu près 10% technique et 90% culturel.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il faut parler à chacune des personnes, leur montrer l'utilité de ces outils, et ensuite, dès qu'elles ont découvert l'utilité de ces outils, d'une certaine manière, dès qu'elles ont vu la lumière, en fait, ça devient des ambassadeurs et qui, qui sont ensuite prosélytes avec l'utilisation de ces outils. On a vu ça chez les développeurs, mais on voit ça en fait dans à peu près tous les métiers depuis quelques mois, où chacun en fait se crée des agents.
Oui, même pour celui du marketing, celui du le design.
Marketing de, dans le légal, de dans le service client, enfin à tous les niveaux. Et ce que ça nous apporte, c'est qu'à la fin, à la fois, ça nous augmente la qualité de ce qu'on fait, ça augmente la quantité, et surtout, on a des personnes qui peuvent derrière récupérer un petit peu de temps pour réfléchir.
Oui,
et donc, d'une certaine manière, en fait, on s'émancipe des tâches aliénantes pour se reconcentrer sur ce qui fait de nous vraiment des humains.
Oui, Arthur Mensch qui parlait de la productivité de ces développeurs, la productivité individuelle, elle est très importante, mais dès qu'on est en équipe, elle chute.
Ouais.
Et c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi.
Exactement, c'est un sujet qui est très 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 important. C'est en fait comment passer du single player AI à multiplayer AI. Ouais. Donc vraiment comment on rend ça quelque chose de collaboratif. Et aujourd'hui, en fait, les entreprises comme Alan en fait mettent en place ce qui s'est appelé dans l'industrie des skills, ouais, c'est-à-dire des manières de faire des agents qui nous permettent ensuite de normaliser un petit peu comment on fait les choses à D'accord. l'échelle de l'entreprise. Et ce qui est extrêmement intéressant avec ces skills...
Des choses modélisées, quoi.
Et en fait, ces skills, c'est un fichier texte. C'est la procédure, on explique à l'agent comment il doit faire pour faire une tâche.
D'accord.
Et donc, c'est quelque chose d'assez simple, mais en fait, tout le monde fait cette procédure comme un humain suivrait une procédure. L'avantage d'avoir ces procédures à l'écrit qui sont suivies par des agents, c'est que la conduite du changement, ensuite, devient juste la modification d'un fichier texte. Mmh. Et donc, on gagne énormément en efficacité et en discipline parce qu'on a délégué nos tâches aux agents. Ensuite, il y a tout un sujet qui devient, en fait, ce que certains économistes américains ont appelé les messy jobs.
Mmh. Oui, ah oui.
Tous ces métiers qui sont, en fait, très compliqué parce qu'on va devoir parler à un tel et un tel et en fait créer des coalitions de personnes qui sont pas d'accord entre elles, etc. Que les IA vont avoir du mal à gérer. Et en fait, ces jobs, ils vont avoir tendance à rester. En fait, les choses qui sont un petit peu complexes,
oui,
et humaines, on va les garder, on va continuer à évoluer dans ce domaine-là. Et donc, c'est Messi Jobs qui va falloir reconfigurer d'une certaine manière pour gagner en efficacité.
Ouais, c'est passionnant comme recherche, même dans la physiologie, la sociologie d'une entreprise. Juste un dernier mot, Charles. Développement à l'international, on est dans la santé, la prévoyance. C'est compliqué, on ne peut pas répliquer un modèle parce que ce n'est pas le même modèle de santé chez nous, chez les Britanniques, chez les Anglais ou chez les Brésiliens. L'IA, elle permet, elle favorise un peu d'aller plus vite dans ces pays, même si on n'a pas le même modèle de santé.
Exactement. Exactement. Alors aujourd'hui, on est en France, en Espagne, en Belgique, au Canada. Et en fait, le fait que les modèles de santé soient différents dans les différents pays est à la fois une malédiction,
oui,
mais aussi une opportunité. Parce que nous, ça veut dire que, enfin, il n'y a pas eu de grands acteurs qui ont réussi à s'établir sur les différents pays. Mais nous, avec l'IA, en fait, ça devient beaucoup plus facile de globaliser les développements et donc derrière de pouvoir potentiellement créer un champion mondial de la santé.
Eh bien, merci en tout cas d'être venu nous parler de tout ça, Charles Gorantin. On est très content de vous avoir eu dans Tech & Co Business et puis pour parler justement d'Alan et de toutes ces progressions et de cette IA omniprésente. Alors, évidemment, on est ici au sommet de l'IA, mais on voit avec vous comment tout ce métier est en train de se transformer, celui de la santé, de la prévoyance, de l'assurance. Je disais, c'est des métiers assez ancrés dans le traditionnel. Eh bien non, ça se transforme complètement et notamment grâce à l'IA. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et puis on se retrouve ici avec un autre prodige de l'intelligence artificielle, c'est Gauthier Cloy avec H Company.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Allez, on poursuit notre voyage ici au sommet de l'IA à Lille avec Gauthier Cloy. Bonjour Gauthier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président de CEO de H Company. H Company créé en 2024. Hein, c'est tout jeune. Ça fait partie de nos jeunes prodiges de l'IA que l'on suit évidemment sur Tech & Co et Tech & Co Business. Vous parlez, vous, beaucoup justement du métier du computer use. Expliquez-nous alors en quoi ça consiste justement ce computer use.
Oui, bah, c'est vrai que l'IA, il y a plusieurs types d'IA. On connaît tous les premières générations de l'IA, c'est-à-dire dire les chatbots, on pose des questions, on a des réponses. Dans les entreprises, c'est connecté aux données d'entreprise, donc c'est utile parce que ça permet d'aller plus vite. Il y a eu la deuxième génération qui était la génération des agents, donc là on se connecte sur les outils de l'entreprise pour automatiser certaines tâches. C'est intéressant, mais c'est surtout des gains d'efficacité. On va gagner 15 minutes par-ci par-là. C'est ce que les entreprises ont commencé à adopter au début, et aujourd'hui c'est la principale utilisation de l'IA dans les entreprises, mais ça n'adresse pas le problème du cœur, c'est-à-dire comment je crée des nouveaux business, comment je transforme mon expérience client, comment je vais vraiment au cœur des opérations et pas juste un assistant pour le salarié. Et donc le Computerius, ça permet de se connecter sur n'importe quel outil sans avoir à brancher ces outils à l'IA. Et aujourd'hui les entreprises, elles ont des outils qui sont modernes, faciles à brancher sur l'IA, puis il y a des outils qui sont anciens et là c'est très difficile. Donc en fait le Computerius, il utilise l'ordinateur comme un humain, il va cliquer, il va scroller, il va utiliser le clavier, la souris.
Mais comment il apprend justement? On a filmé l'humain, comment ça s'est passé?
Il a appris de deux manières différentes, donc en voyant des humains qui utilisent un ordinateur, donc il s'est dit tiens, c'est comme ça, le bouton, ok, il faut cliquer dessus. Et puis ensuite on lui met des grands bacs à sable, donc on met des dizaines de milliers d'environnements et on lui dit voilà, ta tâche c'est d'aller acheter un iPhone sur Amazon ou de créer un nouveau client dans SAP. Et puis il va rater, alors c'est rigolo à regarder parce qu'on voit, on se dit mais pourquoi il fait ça, voilà. Et puis au bout d'un moment il comprend, il scrolle, il clique sur le bon endroit, il est content et donc il arrive jusqu'à la fin. Donc c'est un apprentissage finalement qui n'a pas tellement besoin de beaucoup de données, mais il a besoin de beaucoup de bacs à sable pour s'entraîner.
Et donc du coup l'entreprise, on était avec Alan il y a un instant, une entreprise d'assurance, comment elle va utiliser justement le produit de H?
Oui, c'est un bon exemple, d'ailleurs on sera à Vivatech la semaine prochaine avec AXA, on fera des démos aussi avec Orange et BNP. Une entreprise par exemple d'assurance, elle va l'utiliser pour tout ce qui est manuel. Donc aujourd'hui, pour les entreprises par exemple, vous avez des sinistres entreprises, vous avez beaucoup de documents, vous envoyez un mail, vous dites ah ok votre hôtel a brûlé, envoyez-nous une photo, ah il nous manque tel document, et en fait ça prend beaucoup de temps d'humain. Aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit l'assurance ou la santé ou les ventes, les humains passent à peu près 60% de leur temps à faire ce genre de tâches manuelles et répétitives. Je vais dans mes mails, il manque cette information, ah c'est bon je l'ai récupérée, je vais la recopier dans un autre logiciel. Mais une infirmière à l'hôpital c'est pareil, elle va récupérer les infos du patient, elle va les rentrer. Donc en fait c'est une perte de temps énorme de l'humanité parce qu'on a pendant 40 ans accumulé différents logiciels en se disant ça va nous aider. Aujourd'hui ça nous fait aussi perdre beaucoup de temps, donc nous on est là pour supprimer ce temps. Et donc une fois qu'on a supprimé 60% du temps d'un commercial, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher de nouveaux business.
Donc c'est pour ça que je regardais les chiffres, 2 à 3% de réduction des coûts d'achat, plus 50% de capacité commerciale sans recrutement supplémentaire, une division par deux des temps d'attente aux urgences. Voilà, il y a beaucoup de cas d'usage où on voit tous les bénéfices apportés par H. Tiens, je voulais qu'on parle aussi de la coalition Nemotron. C'est quoi ça? Alors c'est des écosystèmes ouverts, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc Nemotron, c'est Nvidia, c'est le modèle de Nvidia, c'est un modèle ouvert. Nvidia, c'est les fabricants de puces qui sont derrière l'IA. Et Jensen Huang, qui est le patron de Nvidia, a décidé de créer une coalition. Donc en fait, il s'est dit, on va prendre les meilleurs dans chaque catégorie. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Cursor pour le code, Perplexity pour la recherche. Il nous a choisi, nous, pour le Computerius. Donc on est très fiers. Et en fait, on travaille ensemble parce que il y a différentes. C'est comme dans une boulangerie, il y a des pains au chocolat, il y a des croissants. L'IA, c'est pareil, il y a plein de catégories d'IA. Et c'est intéressant de les faire travailler ensemble. Donc dans cette coalition, nous, on travaille beaucoup avec Nvidia. Moi, je passe beaucoup de temps là-bas avec Jensen et ses équipes pour créer des applications intéressantes. On peut imaginer, par exemple, la voix et le Computerius pour libérer les humains des claviers et des souris. Avec la recherche, on fait des choses intéressantes. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. On le fait dans ce cadre.
Oui, j'imagine. Je discutais tout à l'heure. Je croisais quelqu'un qui était dans l'inclusion. On imagine, pour des gens qui ont du mal à écrire, voire à lire, justement, le terme de la voix, j'imagine que ça peut être un des débouchés.
Ouais, je pense que c'est hyper intéressant, effectivement, pour les gens et puis même nos aînés qui parfois ont un peu de mal à utiliser un ordinateur, un smartphone. La voix, c'est... On a 3 millions d'années d'existence à peu près, les humains, c'est ce qu'on a privilégié pour communiquer l'information. Et c'est pour une bonne raison. Donc, effectivement, ça permet de créer des nouvelles applications. Et nous, on croit vraiment, on est leader mondial sur le Computerius, dans les classements qui classent le Computerius. On croit vraiment à être concentré sur une technologie. On fait pas tout, donc on fait pas, par exemple, de la voix. À faire des partenariats avec d'autres géants mondiaux dans leur technologie pour créer des outils véritablement innovants. Et on est fiers de le faire depuis la France. Et
derrière, c'est quel type de modèle qui travaille? Sont les modèles de H ou vous utilisez aussi les modèles de toutes les entreprises qu'on connaît ou des Mistral pour parler de la France?
Nous, on utilise nos propres modèles qu'on développe, qui s'appelle Holo, H-O-L-O. Donc là, on est à la version 3.1. Ce qui est intéressant sur notre modèle, c'est qu'il est très concentré sur ce dont on a besoin pour les entreprises. Il coûte à peu près 50 fois moins cher que par exemple Anthropic, parce qu'il n'a pas besoin de faire des poèmes en chinois, c'est vraiment juste ce qu'il y a besoin pour les entreprises. 50 fois moins cher, ça veut aussi dire que c'est 50 fois moins émetteur de gaz à effet de serre et de consommateur d'eau. Et puis 50 fois, ça veut aussi dire que parfois ça peut tourner sur un ordinateur ou sur un téléphone. Et donc il n'y a plus cette question de on doit faire sortir les données, où est-ce qu'elles vont, etc. Donc c'est important pour nous d'avoir nos propres modèles. On a une équipe de recherche de très grande qualité qui les développe.
Et puis ça va être important parce qu'on voit que les entreprises aujourd'hui se posent beaucoup de questions autour du coût du token, de la partie environnementale. Ce type de solution peut fonctionner. Un dernier mot, Gauthier Couas, sur la souveraineté. C'est un des mots-clés de cette journée Somedia. Comment vous voyez-vous dans toute cette chaîne de valeur là, de souveraineté? Comment vous la définissez?
Eh bien, pour moi, la souveraineté, c'est d'avoir des acteurs dans nos pays, mais pas des acteurs qui sont champions français, des acteurs qui sont champions mondiaux. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on a, dans le passé, eu Airbus, qui vendait pas juste à Air France, qui vendait au monde entier, tout le monde achète nos avions, et c'est ce qui fait que ça existe toujours aujourd'hui. Moi, ma vision de la souveraineté, c'est que on doit créer ces champions mondiaux pour pouvoir exister. On a vu qu'on n'a pas réussi à le faire sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux. On se fait écrabouiller. Alors, la bonne nouvelle, c'est que toutes les cartes sont rebattues tous les 10 ans parce que maintenant on passe à l'IA. Donc on a la chance d'avoir en France 4 grandes boîtes d'IA. Il y a Mistral, il y a Amilab, il y a Gradium, il y a Ash. On est tous sur une spécialité différente. Et je pense que c'est ça qui va créer la souveraineté. Et ce qui est important, c'est aussi l'utilisation.
Oui.
Les talents, on les trouve. L'argent, on le trouve. Le financement. Oui, par contre, l'utilisation, c'est important.
Il faut que les entreprises et grandes administrations.
Les entreprises, exactement.
Mais on voit que ça y est, l'élan est en train d'être donné.
Absolument.
Merci Gauthier Couas d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes CEO de H Company, d'avoir été sur ce sommet, et on continuera bien entendu à vous suivre sur Tech & Co.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Allez, on marque une courte pause et on va retrouver tout de suite notre dernier invité. On va parler IA et travail, et puis les femmes dans l'IA aussi. C'est tout de suite.
Tech & Co Business sur BFM Business.
Allez, dernière partie de cette émission Tech & Co Business depuis le grand sommet de l'IA à Lille avec notre invitée Constance Névray. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous. Vous êtes co-CEO du groupe Mantoux. Alors, vous accompagnez les entreprises justement dans leur transformation. Et avec l'IA, il y a beaucoup de transformations. Et alors, je me suis intéressé à plusieurs chiffres que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé aussi. Sur l'investissement IA, c'est la fracture humaine. 93% des investissements IA en entreprise sont consacrés à la technologie elle-même, alors qu'on devrait être beaucoup plus sur la partie humaine, c'est ça?
Oui, absolument. Aujourd'hui, en fait, on parle essentiellement de l'IA selon l'angle technologique. On dit que c'est une révolution technologique. Alors qu'en réalité, moi, ma conviction, c'est que c'est avant tout une transformation profonde du monde du travail. Et il y a effectivement une vraie déconnexion dans les organisations, dans les entreprises. On s'aperçoit que, en fait, 93% des investissements vont vers les solutions, vers la technologie, et seulement donc 7% vers la formation, vers la transformation des organisations. Et ça, ça mène à un vrai risque, en fait, de polarisation, de laisser une partie de l'organisation, une partie des gens sur le côté parce qu'ils n'auront pas été formés. Et donc, je crois que le vrai enjeu des organisations aujourd'hui, il est là, c'est d'être en capacité de pouvoir faire monter en compétences et faire en sorte que le plus grand nombre puisse progresser grâce à l'intelligence artificielle et non le subir.
Et oui, parce qu'en plus, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que au-delà de ces investissements dans la formation à ces outils, c'est pas un outil où on se forme et puis ensuite on retourne à son poste de travail et puis ça y est, on le met en application. C'est quelque chose, c'est au quotidien. Donc c'est là où il y a cet accompagnement qui doit être. Et est-ce qu'il existe des outils justement pour comment faire, enfin des bonnes pratiques pour justement accompagner, coacher un peu chacun des collaborateurs, puis à tous les niveaux, hein, qu'on soit col bleu très haut placé ou col blanc, col bleu très, enfin sur les métiers plutôt annuels, mais même sur des métiers col blanc très haut placé. C'est quoi les bonnes pratiques justement pour mieux les accompagner?
Effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, la plupart en fait des entreprises se concentrent sur la formation, mais une formation qui reste assez théorique. Alors que le vrai enjeu, c'est d'arriver à réinventer les métiers, arriver à les transformer en profondeur. Et ça, ce que ça nécessite, c'est d'avoir des personnes qui vont passer du temps, qui vont même avoir parfois, chez nous, chez Mantoux, en fait, on a carrément décidé d'avoir des personnes qui sont dédiées à la transformation de leur propre métier. Donc,
d'accord.
Par exemple, on a des personnes qui ont parfois 10, 20 ans d'expérience dans un domaine précis. Prenons les ressources humaines ou la finance. Mm-hmm. Et on a décidé de leur donner le mandat, la responsabilité de réinventer leur métier grâce à l'intelligence artificielle pour repenser les métiers en profondeur.
Et ça, c'est, on appelle souvent ça le reskilling, hein, on reconfigure un peu son métier. Et là aussi, il n'y a pas suffisamment d'investissement. Enfin, on voit pas assez en profondeur. Là, je suis d'accord avec vous. Je pense que les gens pensent, oui, bon, l'IA, ça y est, je vais m'adapter. Je le vois comment je l'utilise de façon personnelle. Mais ils ne se rendent pas compte que dans une organisation, ça change tout.
Absolument. Ce qu'on observe aujourd'hui, en fait, c'est que d'un côté, les entreprises ont compris que le reskilling, l'upskilling, ou encore, on pourrait dire en français, la réorientation des compétences est critique.
Oui.
Mais de l'autre côté, on observe qu'il y a seulement 7% des entreprises
qui ont
intégré dans leur plan d'action le fait de réfléchir et de flécher les compétences nécessaires, de réfléchir à la façon dont ils vont pouvoir réorienter les compétences et de réfléchir en fait au projet de projection et de perspective professionnelle. Et nous, ce qu'on observe beaucoup aussi, c'est qu'aujourd'hui, les compétences dont on a besoin dans le cadre de cette transformation autour de l'intelligence artificielle sont différentes des compétences précédentes. Dans la première ère liée au début donc, de l'intelligence artificielle, on avait besoin de compétences très techniques, des experts en fait, de l'intelligence artificielle. Et là, aujourd'hui, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère où l'enjeu, c'est plus tellement uniquement la question technologique, mais c'est surtout, avant tout, l'enjeu de la transformation des organisations en profondeur. Et on a besoin de compétences assez différentes pour réaliser cette deuxième phase.
Mais ça veut dire, j'avais Robin Rivaton sur une émission là, qui étudiait tout ça et qui me disait dans les facs de sociologie, on doit réapprendre tout ça parce que reconfigurer son métier, enfin, ça va nous forcer nous-mêmes, hein, à quel âge que l'on est, à repenser son métier. C'est compliqué quand même tout ça.
Alors c'est compliqué. Des transformations du travail, on en a déjà eu.
Oui.
Mais
celle-là, elle est rapide.
Précédemment, mais effectivement, ce qui, je pense, fait la spécificité de celle-ci par rapport aux transformations précédentes, que ce soit la transformation digitale qui a touché aussi tous les métiers. Hein, il y a quand même une ou deux décennies, tous les métiers ont été transformés par la transformation digitale. Et là, c'est effectivement la spécificité, c'est la rapidité à laquelle on assiste aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les entreprises se trouvent en première ligne de cette transformation et qu'elles sont les premiers acteurs en fait, de la formation du reskilling, parce que les politiques publiques, parce que les systèmes éducatifs n'ont pas eu le temps de s'adapter et de lancer des nouveaux programmes. Encore qu'il y a quelques lueurs d'espoir, parce que je crois qu'il y a eu des annonces,
oui.
Notamment hier, le SCP qui lance sa nouvelle école, justement dédiée au fait de pouvoir former.
Oui, ils veulent être une université beaucoup plus large, voilà, avoir des
profils hybrides.
À la fois ingénieur, à la fois école de commerce, voilà, pour
et c'est tout
casser
à fait,
un peu ce modèle.
C'est tout à fait ce qu'on observe chez nous, chez Mantou. Aujourd'hui, on identifie le fait que les profils dont on a besoin pour réaliser cette transformation autour de l'intelligence artificielle sont des profils hybrides. On les appelle les hybrid builders, donc des profils qui sont en capacité de pouvoir faire les liens entre les métiers, la compréhension profonde des organisations et puis les opportunités qui sont ouvertes par l'intelligence artificielle.
Je profite de vous avoir aussi sur ce plateau pour parler des femmes et de l'IA. Alors on avait Anne Bouvreau qui était là tout à l'heure, voilà, coprésidente du conseil de l'IA. Mais là encore, comme dans d'autres domaines, il y a gros retard, il y a un fossé qui est, on l'espère, pas trop en train de se creuser, mais comment vous percevez ça et comment faire pour justement attirer davantage de profils féminins vers ces métiers de l'IA?
Alors effectivement, les femmes sont quasiment absentes pour l'instant de ces sujets dans les instances dirigeantes, en tout cas il y a seulement 12% de femmes à la direction d'entreprises dans les domaines scientifiques ou technologiques, donc c'est très peu. Par contre, il y a quand même une lueur d'espoir. Moi, j'ai envie d'être optimiste sur le sujet.
C'est
que, comme je le disais, en fait, on est en train de changer d'air. On est en train de passer d'une ère très technologique à une ère de transformation des organisations. Et là, pour le coup, par rapport aux compétences qui sont nécessaires pour réaliser cette secondaire, les femmes sont déjà présentes sur ces compétences-là. Et elles sont, par ailleurs, aussi très bonnes en la matière. Donc, c'est le moment, à condition par contre que les entreprises identifient le fait qu'il y a un momentum qui se passe maintenant pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les instances de direction et qu'elles soient aussi au cœur des instances de décision.
Oui.
Sinon, on se retrouvera
avec... Sans trop jouer les coefficients de parité et tout ça, il faut vraiment réfléchir à son organisation. Et...
Alors ça, je pense que le sujet justement des quotas, des coefficients, c'est un peu un faux débat parce qu'en réalité, dans l'entreprise, on... tout, ce qui n'est pas mesurable n'existe pas, donc on mesure tout le reste. Donc le fait de se fixer des objectifs chiffrés s'agissant de la question des femmes, je pense que c'est pas plus illégitime que quelques autres KPI dans l'entreprise.
Bien, merci d'être venue nous parler de tout ça, Constance Névoré, co-CEO de Mantoo. Et puis voilà, on continuera à suivre évidemment tout ce que, comment vous accompagnez toutes ces entreprises et tout ce qu'on a voulu vous montrer aussi, toutes ces transformations. C'est ce qu'on a voulu vous montrer dans ce plateau Tech & Co Business aujourd'hui, enregistré depuis le grand sommet de Lille. Donc voilà, vous retrouverez en replay, bien entendu. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous sur nos replays, sur nos podcasts, pour revoir un peu tous les invités que nous avons eu sur ce plateau. Ils étaient nombreux, et parce que cette journée à Lille était très très riche. À très bientôt. On sera sur VivaTech la semaine prochaine. Ça arrive vite. Excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.